Et nous sommes toujours ensemble sur les ondes médias. Merci à vous de votre fidélité. Nous sommes ensemble, je le disais en début d'émission, pour parler également de tachycardie. Reconnaître les premiers symptômes d'une tachycardie chez un enfant reste primordial afin de pouvoir traiter la maladie. Alors que peut cacher une tachycardie? Que faire devant les tachycardies de son enfant? Autant de questions et d'autres qu'on pose ce matin au professeur Ahmed Bnis, professeur en cardiologie. Bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre présent à notre invitation.
Merci à vous.
D'abord, comment peut-on définir une tachycardie et quelles peuvent en être les différentes formes?
Tachycardie, ça veut dire rythme cardiaque rapide. Tachy, oui. C'est rapide. Cœur, cardiaque, c'est cœur. Donc, quand le cœur est rapide, ça donne des palpitations. Ce sont des sensations de battement cardiaque rapide, parfois régulières ou parfois irrégulières. Donc, c'est une question de perception. On a une perception de battements qui sont un peu forts et on a l'impression parfois que le cœur va sortir de la cage thoracique. C'est généralement ce sont ces symptômes que les enfants présentent et donc ils se plaignent et parfois ça fait angoisser leurs parents.
Oui.
Alors ces épisodes sont souvent courts et généralement ils sont bénignes. Donc pour rassurer un peu les parents qui nous écoutent, les mamans, les papas qui nous écoutent, en général ça peut être une tachycardie sinusale en rapport avec une augmentation du rythme cardiaque du sinus cardiaque, ou parfois ça peut être une tachycardie, une augmentation du rythme au-dessus des ventricules, c'est-à-dire soit des oreillettes, soit au niveau de la jonction du cœur. Mais en général, c'est bénin et en général, le bilan est tout à fait rassurant. On va voir un peu les causes et les circonstances dans lesquelles ça arrive.
Alors justement, professeur Bnis, quel devrait être le rythme cardiaque normal d'un enfant?
Alors normalement, le rythme cardiaque d'un enfant, un adolescent, généralement de 60 à 80, 60
D'accord.
battements à 80, c'est le rythme normal. Et généralement, ça s'accompagne d'une bonne tolérance à l'effort. Alors lorsque les palpitations surviennent au repos et ne s'accompagnent pas d'autres symptômes ni de pathologies connues, à ce moment-là, on va préciser les circonstances dans lesquelles ça va survenir. Et on va voir un peu parfois les causes. Et les palpitations peuvent survenir au cours d'accès, par exemple, d'hyperventilation. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui angoissent, qui paniquent. Et en général, il y a une hyperventilation et ça accompagne généralement les crises d'angoisse ou de panique. Ou lorsque parfois on passe d'une position à une autre, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'une position couchée à une position debout, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une tachycardie orthostatique. Une tachycardie en rapport avec le passage en position debout. Et généralement, c'est une tachycardie bénigne. On doit préciser aussi si le début et la fin est brusque ou progressif. En général, lorsque c'est progressif, c'est généralement banal. Lorsque le début est brusque et la fin est brusque, à ce moment-là, on s'oriente vers, vers un certain nombre de causes qui sont intéressantes à rechercher.
Alors, justement, avant de parler de ces causes, il y aurait certainement ces premiers symptômes qui devraient normalement alerter les parents. Quels seraient ces symptômes d'une tachycardie qui peut être considérée comme une tachycardie assez sérieuse?
Absolument. Alors, lorsqu'on constate que l'enfant devient pâle,
oui.
qu'il a une douleur thoracique qui va survenir au cours de l'épisode, lorsqu'on a une asthénie prolongée après l'arrêt des palpitations, donc ça, c'est des symptômes qui peuvent attirer l'attention. Et on a des symptômes de gravité. Des symptômes de gravité lorsque les palpitations surviennent à l'effort
oui.
et parfois, elles s'accompagnent d'un malaise, d'une perte de connaissance, ce qu'on appelle une syncope. À ce moment-là, on doit faire attention et on doit mettre en place un certain nombre d'examens qui vont nous permettre de rechercher la cause. Donc, les parents doivent s'alerter lorsqu'il y a une pâleur, lorsqu'il y a, pendant l'effort, une perte de connaissance, lorsqu'il y a un malaise, lorsqu'il y a une douleur thoracique, à ce moment-là, ou lorsqu'il y a une asthénie profonde après la crise, à ce moment-là, ça devient dangereux. Il faut vraiment faire un bilan le plus complet possible.
Très bien. Alors, quelles peuvent en être les causes? On y arrive.
Généralement, lorsque les palpitations surviennent uniquement au repos, ça peut être possible d'avoir ce qu'on appelle un trouble du rythme paroxystique, c'est-à-dire un trouble du rythme qui va survenir de façon pas épisodique. Alors, dans ces cas, on a une fréquence peu élevée, moins 130 battements par minute, et donc on peut avoir juste un contexte d'émotivité, de stress, avec, comme j'ai dit, une hyperventilation associée. Et parfois, lorsque le passage se fait de la position debout, avec un début et fin progressif. Mmh. À ce moment-là, on n'a pas de signe de pâleur, d'asthénie, et le CG, l'électrocardiogramme, est normal. Donc, dans ces cas-là, c'est tout à fait rassurant. Par contre, lorsque on a des palpitations qui démarrent brusquement, en dehors de tout contexte anxiogène, et pendant le sommeil, avec une sensation de battement très rapide, incompatible incontable, c'est-à-dire le cœur est très rapide, lorsqu'il y a, comme j'ai dit, une pâleur, une sensation de douleur thoracique, à ce moment-là, on doit chercher la cause. Ça peut être une tachycardie qui naît au niveau de la jonction, c'est-à-dire au niveau de la jonction entre les oreillettes ou les ventricules. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois les tachycardies de Bouvray, qui utilisent un chemin de réentrée intranodale. C'est-à-dire que le faisceau et l'électricité du cœur, lorsqu'elle entre à l'intérieur du cœur, elle va tourner autour d'elle-même. C'est comme un court-circuit et qui peut être en rapport avec parfois un faisceau de pré-excitation, un faisceau anormal, parfois qu'on découvre au cours de l'enfance. C'est ce qu'on appelle, c'est connu, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Wolff-Parkinson-White. On peut avoir aussi des tachycardies au niveau des oreillettes. C'est-à-dire, au niveau des oreillettes, vous avez des zones qui vont pulser, qui vont donner ce genre d'arythmie. On peut parfois trouver des flutters, des arythmies en dents de scie. Mais ce qui ça, généralement, quand on les trouve du rythme à l'étage des oreillettes ou à l'étage de la jonction entre les oreillettes et les ventricules, ça, c'est en général, on a la possibilité de le traiter, on a la possibilité de stopper et on a évolué sur le traitement ces dernières années. Mais parfois, ces palpitations, ces tachycardies peuvent être en rapport avec des tachycardies au niveau des ventricules. Et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que ça peut parfois dégénérer en fibrillation ventriculaire et parfois des risques d'arrêt cardiaque. C'est très rare, mais quand est-ce qu'il faut s'alerter? Lorsqu'on a eu une perte de connaissance, comme j'ai dit, lorsqu'il y a une pâleur importante, lorsqu'il y a une chute tensionnelle importante, lorsqu'il y a une asthénie importante, et à ce moment-là, on fait un certain nombre d'examens et qui vont nous orienter vers ces tachycardies ventriculaires, d'origine ventriculaire, qui peuvent être dangereuses. Donc, c'est pour ça que j'attire l'attention des parents sur ces signes, et je reviens encore à la charge, pendant l'effort, malaise, perte de connaissance, ça, c'est les éléments clés qu'il faudrait retenir.
Parfait. Alors, comment posez-vous le diagnostic, professeur Benis?
Alors, le diagnostic, en général, on a une stratégie. Lorsque les palpitations surviennent au repos isolé, à ce moment-là, on voit le contexte, on voit les circonstances dans lesquelles ça arrive. On fait l'électrocardiogramme, et en général, quand l'électrocardiogramme est normal, quand on interroge les parents, qui n'y a pas de signe de gravité, on rassure les parents, on donne un peu de magnésium, et tout va rentrer dans l'ordre.
D'accord.
Mais quand il y a, comme j'ai dit, des palpitations qui vont survenir au cours de l'effort, avec malaise, syncope, à ce moment-là, on cherche ce qui est urgent, ce qui est grave, c'est les troubles du rythme d'origine ventriculaire. Et à partir de là, on fait un électrocardiogramme, on fait une échographie du cœur qui va nous permettre d'étudier les structures anatomiques et fonctionnelles du cœur. On fait un enregistrement du cœur sur 24 heures et à ce moment-là, on arrive à voir s'il n'y a pas une anomalie, soit au niveau ventriculaire, et à ce moment-là, on a des traitements qui sont appropriés, soit on a des troubles de ce qu'on appelle entrée-réentrée, c'est-à-dire des courts-circuits au niveau du cœur, au niveau de certains faisceaux en particulier, ce qu'on appelle le faisceau de Kent, et à ce moment-là, on a aussi le traitement approprié. Donc, c'est du cas par cas.
C'est du cas par cas.
Du cas par cas, et tout dépend des symptômes que présente l'enfant.
D'accord.
Et de la pathologie. Donc, c'est pour ça que dans la majorité des cas, dans 90% des cas, 95% des cas, le symptôme est tout à fait banal et ne présente aucun problème. C'est pour ça qu'on est là pour examiner et pouvoir, c'est tout est banal. Mais quand on a des signes de gravité, à ce moment-là, on va pousser des investigations assez poussées,
oui,
pour éliminer une cause qui peut être parfois rarement mortelle.
Justement, quels pourraient en être les risques les plus graves, professeur, si on ne réagit pas assez vite?
Lorsque ces tachycardies sont en rapport avec une cause banale, au niveau du sinus, au niveau de la jonction, ou lorsqu'il y a un contexte d'hyperventilation, le pronostic est généralement bon, c'est-à-dire quand on a une fréquence du pouls qui est peu élevée, lorsqu'on a un contexte d'émotivité, de stress, d'hyperventilation, hyperventilation, lorsque l'électrocardiogramme est normal. Lorsque l'électrocardiogramme est anormal, lorsque les palpitations démarrent brusquement en dehors de tout contexte anxiogène ou pendant le sommeil, à ce moment-là, est-ce qu'il, s'il y a une entrée-réentrée, c'est-à-dire une tachycardie, par exemple, de Bouvray, à ce moment-là, on peut proposer des techniques d'ablation par radiofréquence qui vont ablater, qui vont empêcher ce court-circuit de se faire.
D'accord.
On peut donner aussi des médicaments comme les bêta-bloquants qui vont empêcher les crises de revenir. Mais si les tachycardies sont d'origine ventriculaire, ça c'est plus grave, ça c'est rare, mais c'est grave. Et à ce moment-là, il faudrait à ce moment-là donner des traitements contre les troubles du rythme et parfois, mais c'est des cas exceptionnels, lorsqu'on estime que le risque de mort subite existe, mais c'est par exemple lorsque le myocarde est très malade, très hypertrophié comme un muscle de bœuf, lorsqu'il y a des zones de fibrose à l'intérieur du ventricule, lorsqu'il y a des zones où lorsque le ventricule est malade, à ce moment-là, on met en place un défibrillateur automatique implantable qui va pratiquement jouer le rôle du choc électrique externe et qui va empêcher justement ces crises d'arriver et qui peuvent parfois être mortelles. Donc, mais c'est, je dis encore une fois, le but de cette présentation, de cette matinée, ce n'est pas de faire peur aux parents. Oui. Au contraire, dans la majorité des cas, ça passe bien. Mais dans les rares cas, il faut prendre ça au sérieux lorsqu'il y a des signes d'alerte. Et parfois, ce sont des signes qui sont assez subtils. Perte de connaissance, malaise, tout ça, il faudrait faire attention. Les adolescents, il faut chercher s'il n'y a pas une anémie, en particulier les filles qui ont des règles abondantes. La thyroïde, lorsque la thyroïde fonctionne de façon anormale, de façon exagérée, ça peut donner des arythmies cardiaques. Et n'oublions pas l'usage de produits illicites. Tout ce qui est drogue, tout ce qui est ecstasy, tout ce qui est cocaïne, ça peut donner des arythmies dangereuses, mortelles. Et une des premières causes aujourd'hui des urgences cardiologiques des adolescents et des adultes jeunes en Europe, c'est la prise justement de produits illicites. Il ne faudrait absolument pas que les parents fassent la politique d'autruche. Il faudrait qu'ils arrivent à regarder parce qu'il y a relativement pas mal d'adolescents qui, par méconnaissance ou par naïveté, vont à ces produits illicites et parfois ça peut donner des drames qui peuvent avoir des répercussions très graves. Et donc faire extrêmement attention chez les adolescents de prendre ces produits illicites.
Parfait, le message donc est passé. Et puis, est-ce qu'il y aurait, pour finir, professeur Benis, une conduite à tenir chez ses enfants?
Alors, en général, il faut que les parents soient à l'écoute. Quand l'enfant raconte, il dit qu'il a des palpitations, ça peut être juste une manifestation d'anxiété, comme dont on a parlé aujourd'hui, la panique, la spasmophilie, le syndrome d'hyperventilation. Lorsque la tachycardie est rapide et ressentie comme un facteur de stress, généralement, on rassure les parents. Mais quand il y a des signes, et ça, c'est le rôle du pédiatre et du cardiologue, c'est de rassurer en expliquant que le rythme est rapide, mais normal, et qu'il n'y a pas de danger vital. Par contre, lorsque ces palpitations s'accompagnent d'un certain nombre de symptômes, comme une perte de connaissance, comme un malaise, comme des signes d'arrêt cardiaque, comme une pâleur importante, une chute tensionnelle ou un malaise après la tachycardie, à ce moment-là, il faut consulter et pousser les investigations parce qu'on peut trouver une cause qui va éviter, par le traitement adéquat, des conséquences parfois qui sont fâcheuses, mais dans la majorité des cas, les palpitations restent un symptôme banal chez l'adolescent et l'enfant.
Professeur Benis, je rappelle que vous êtes professeur en cardiologie à Casablanca. Mille merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions sur Médias.
Merci, bonne journée.
Et je rappelle que c'est un entretien réécoutable sur notre site médias.com.